Valentin Huy Actualité, le journal des donateurs et amis de l'association Valentin Huy. Revue trimestrielle, mars 2021, numéro 141. En couverture, la photo d'une main qui effleure une œuvre en relief. Sommaire. Éditorial du président. Plage 3. Rubrique Écoutez. Geneviève Monin, professeur de braille bénévole, et Romain Beauvais, journaliste non-voyant. Plage 5. Rubrique Se retrouver. Deuxième édition de Mot pour mot. Plage 6. Rubrique Comprendre. Zoom sur la culture accessible en France. Plage 13. Rubrique Découvrir. Allier sport et études de kinésithérapie au centre de formation et de rééducation professionnelle. Plage 20. Rubrique Agir ensemble. Formation et emploi des déficients visuels. Le coup de pouce des dons IFI. Plage 25. Legs, donation, assurance vie. Plage 33. Éditorial du président. Chers lecteurs, la déficience visuelle a des incidences dans de nombreux domaines de la vie quotidienne, que l'on soit en situation de handicap depuis plusieurs années ou encore lorsque le handicap visuel survient, beaucoup de questions se posent. Les démarches à mener sont nombreuses et les situations compliquées. La rubrique « Se retrouver » vous invitera à découvrir une foire aux questions ainsi que des fiches synthétiques téléchargeables que l'équipe du service social a réalisées récemment afin que les personnes déficientes visuelles découvrent leurs droits en un clic. Je vous encourage à les faire connaître si dans votre entourage vous connaissez une personne dont la vue est déficiente. Avec la crise sanitaire qui sévit depuis près d'un an partout dans le monde, la fermeture des salles de spectacle et de cinéma, des théâtres et des opéras, mais aussi des musées, a mis la culture en pause dans notre pays depuis plusieurs mois. Notre dossier « Comprendre » donne un éclairage sur ce qui existe en France sur le thème de la culture accessible aux personnes déficientes visuelles. Après avoir introduit en France l'audiodescription qui a permis l'accès à la télévision et au cinéma, notre association multiplie depuis des années les projets pour rendre accessibles les œuvres culturelles en développant des outils de médiation en partenariat avec de grands musées partout en France. Nous espérons bientôt organiser un tactile tour en coordination avec nos comités dès que la situation sanitaire le permettra. Enfin, dans notre rubrique « Découvrir », vous irez à la rencontre de certains des étudiants de notre centre de formation au métier de masseur-kinésithérapeute et qui pratiquent aussi un sport à un haut niveau. Vous pourrez découvrir ce qui les anime, les motive et surtout comment ils parviennent à concilier études et entraînement sportif. En ces temps encore très incertains, continuons à aider les personnes déficientes visuelles et brisons leur isolement en poursuivant nos missions. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour donner à l'ensemble des personnes aveugles ou malvoyantes de réelles perspectives de vie et votre soutien généreux nous y aide chaque jour. Aussi, chers donateurs, je vous remercie très sincèrement de votre fidèle soutien. Sylvain Nivard. Qui fait votre Valentin Huy Actualité? Le Valentin Huy Actualité est une revue trimestrielle éditée par l'association Valentin Huy, 5 rue du Roc, Paris 7e. Téléphone 01 44 49 27 27. VHA Actualité, au pluriel, @avh.asso.fr. Téléchargeable et disponible en version audio sur www.avh.asso.fr. Directeur de la publication, Sylvain Nivard. Rédactrice en chef, Émilie Lèbre. Comité de rédaction, Marie-Bernadette Alexandre, Carole Bailly, Luc Bacot, Céline Boeuf, Bénédicte Gassic, Géraldine Joubert, Claudine Legrand, Merveille Malonda, Karine Rock. Crédit photo, AVH, Istoc, Accès Culture, Souffleur d'Image, Florent Pervillier, Arthur Zikowski. Couverture, AVH, réalisation, Vincent Dutrieux. Imprimeur, AGFIM, Asnières-sur-Seine. Commission paritaire numéro 0123-H88-398, ISSN 1163-1317, dépôt légal mars 2021. Ce numéro a été imprimé à 59 000 exemplaires. Il est accompagné d'une lettre, d'un bon de générosité et d'une enveloppe retour pour une partie des adressés. Rubrique Écoutez. Geneviève Monin, professeure de braille bénévole au comité Valentin Huy d'Île-de-France. J'ai appris le braille vers l'âge de 10 ans lorsque j'ai perdu la vue et je l'enseigne à l'association Valentin Huy depuis maintenant 7 ou 8 ans à des adultes déficients visuels. C'est très gratifiant de voir à quel point l'apprentissage du braille a un impact énorme sur mes élèves, d'un point de vue personnel et psychologique. Le fait de pouvoir retrouver ce plaisir simple qu'on a enfant de pouvoir écrire et lire par soi-même. Il n'y a pas deux cours identiques, chaque relation est différente et il faut à chaque fois s'adapter à la personne, je ne m'ennuie jamais. Romain Beauvais, journaliste non-voyant et élève en cours de braille. Je suis journaliste spécialiste égalité femmes-hommes dans le sport, les médias et le handicap. Depuis 2002, je suis atteint d'une rétinite pigmentaire. Pour ne pas me retrouver au pied du mur, une fois aveugle, j'ai décidé d'apprendre le braille afin de garder une certaine autonomie dans ma vie quotidienne. Depuis plus de 2 ans, j'apprends le braille avec Geneviève Monin. En arrivant à l'association Valentin Huy, j'avais un objectif, celui de pouvoir lire mes papiers en braille à l'antenne en direct, et ainsi être autonome dans ma vie professionnelle. Même si cela a été difficile, j'ai pu constater au fil des séances avec Geneviève tous mes progrès réalisés depuis mon inscription. Aujourd'hui, c'est une pleine et entière réussite rendue possible par l'association Valentin Huy. Rubrique « Se retrouver ». Mot pour mot, deuxième édition. Mot M-O-T-S pour mot M-A-U-X. 18 000 € collectés pour soutenir l'accès à la lecture pour tous. Photo d'illustration. Douglas Kennedy, parrain de Mot pour mot 2020, présente son livre à la librairie Doucet du Mans, devant des bénévoles du comité Valentin Huy local. En 2020, et pour la deuxième année consécutive, le réseau Libraire Ensemble a soutenu l'association Valentin Huy à travers l'opération Mot pour mot. Retour sur cette opération solidaire marquée par une belle mobilisation autour d'un objectif commun, l'accès à la lecture pour tous. La deuxième édition de Mot pour mot s'est déroulée du 8 au 22 février 2020 dans 50 des plus grandes librairies indépendantes de France, avec, pour chaque livre acheté, parmi une sélection de 50 ouvrages, 1 € reversé à l'association Valentin Huy. Parrainé par le célèbre écrivain Douglas Kennedy, l'opération a permis de collecter près de 18 000 €. En 2019, la première édition avait déjà permis à Libraire Ensemble de remettre 14 000 € à l'association Valentin Huy. Partie prenante de l'opération, les comités départementaux et locaux de l'association Valentin Huy se sont mobilisés pour aller à la rencontre du grand public dans les librairies participantes. Une belle occasion de présenter leur mission et de sensibiliser à la déficience visuelle. 18 comités départementaux étaient directement concernés par cette opération, hébergée par une librairie présente sur leur propre commune. Ainsi, à la librairie Artaud de Grenoble, les bénévoles déficients visuels et voyants du comité Valentin Huy de l'Isère se sont relayés de 2 à 4 heures par jour pendant toute la durée de l'opération, témoigne Nathalie, bénévole au comité. En plus de récolter de l'argent, l'opération a permis à notre comité de recruter de nouveaux bénévoles et d'obtenir des contacts de qualité pour proposer des sensibilisations à la déficience visuelle et organiser de nouvelles activités. Du côté des libraires, Mot pour mot a permis l'installation de manière pérenne de rayons de livres accessibles issus de l'édition spécialisée et de lancer l'idée de développer une offre plus riche à destination des publics empêchés de lire. L'organisation d'une prochaine édition de cette opération est en cours de réflexion. La deuxième photo montre Nathalie et une bénévole non-voyante du comité Valentin Huy de l'Isère à la librairie Artaud de Grenoble. Plus de 50 000 livres pour les personnes aveugles et malvoyantes. En ces temps perturbés où chacun est invité à rester le plus possible chez soi, la lecture est plus que jamais un moyen d'évasion. C'est pourquoi l'équipe de la médiathèque Valentin Huy travaille ardemment à enrichir toujours plus l'offre de titres proposés aux personnes déficientes visuelles. Ce sont désormais plus de 50 000 livres qui sont disponibles gratuitement sur CD ou en téléchargement sur la bibliothèque numérique EOL, www.eol.avh.asso.fr. Chaque grand événement littéraire, tel que les prix ou les rentrées littéraires, sont l'occasion pour les lecteurs de profiter des nouveautés comme tout un chacun. Ce sont donc aussi bien des romans de terroir que des livres de cuisine ou de développement personnel, ou encore des ouvrages d'actualité, tant pour les publics adultes que pour les plus jeunes, qui fleurissent régulièrement sur les rayonnages virtuels de la médiathèque Valentin Huy. Tout cela est possible grâce, entre autres, aux 2 services de l'association qui produisent les livres audio, qui sont ensuite prêtés par la médiathèque. Lutter contre la fracture numérique avec la Fondation Free. Créé il y a 1 an au comité Valentin Huy du Doubs à Besançon, le club Nouvelle Technologie compte désormais 4 bénévoles qui initient tous les lundis après-midi des personnes déficientes visuelles à l'informatique adaptée et à l'usage des nouvelles technologies. le comité Valentin VIII du Doubs prévoit de pérenniser ce club, d'accroître le nombre de bénéficiaires et de déployer et tester des méthodes innovantes d'apprentissage et de compensation du handicap visuel dans les prochaines années. La Fondation Free, qui contribue à la lutte contre l'exclusion et la fracture numérique, a décidé de soutenir le projet du comité pour permettre le réaménagement du local de formation, le renouvellement de son matériel multimédia, ainsi que le déploiement d'un plan de communication afin de faire connaître le dispositif auprès des nombreuses personnes déficientes visuelles de la région. Rendez-vous sur la foire aux questions du service social et juridique. Que l'on soit en situation de handicap depuis plusieurs années ou encore lorsque le handicap visuel survient, beaucoup de questions se posent. Les démarches à mener sont nombreuses et les situations compliquées. Vous vous posez des questions pour vous-même ou pour un proche sur les prestations accordées par la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, sur l'accessibilité de votre logement ou l'exonération de votre taxe sur l'audiovisuel? Le service social et juridique de l'association Valentin VIII a mis à disposition sur son site portail www.avh.asso.fr, rubrique « Vos besoins, nos solutions », sous-menu « Connaître mes droits », une foire aux questions, FAQ, ainsi que des fiches synthétiques téléchargeables, afin que les personnes déficientes visuelles découvrent leurs droits en un clic et trouvent de l'aide dans leurs démarches administratives. Podcast. Dans les yeux de Lucille Razet, championne d'athlétisme malvoyante et étudiante au CFRP. Chaque mois, l'association Valentin VIII vous invite à plonger dans l'histoire d'une personne aveugle ou malvoyante pour changer de regard sur le handicap à travers son podcast « Dans ses yeux ». L'épisode 4 met à l'honneur la jeune sportive et étudiante Lucille Razet. Malvoyante depuis l'âge de 10 ans, elle a trouvé un nouveau souffle et un espace de liberté avec l'athlétisme de haut niveau. Aujourd'hui membre de l'équipe de France d'athlétisme handisport, cette vice-championne du monde junior du 400 mètres partage son temps entre les cours de kinésithérapie au Centre de formation et de rééducation professionnelle, CFRP, de l'association Valentin VIII, et les entraînements sportifs pour réaliser son rêve, représenter la France aux prochains Jeux Olympiques. Notre rapport annuel 2019 est disponible. Le rapport annuel de l'association Valentin VIII dresse le bilan de l'activité de l'association au cours de l'année écoulée. Il présente les comptes et rappelle les informations utiles de l'association. La version PDF accessible du rapport annuel 2019 est consultable et téléchargeable en ligne sur notre site internet www.avh.asso.fr/fr, rubrique Association, sous-rubrique Transparence financière. Une version imprimée peut vous être envoyée sur simple demande à communication@avh.asso.fr. Agenda. Du fait de la crise sanitaire liée à la COVID-19, nous avons peu de visibilité sur les événements à venir. Nous vous suggérons de consulter régulièrement notre site internet www.avh.asso.fr. 17 mars. Concours du poinçon magique. Ouvert gratuitement à toute personne voyante, malvoyante ou aveugle, connaissant le braille intégral ou le braille abrégé. Plus d'informations sur notre site internet. 9 mai. Dans les yeux de Valentin. Événement du comité Valentin VIII de l'Isère, à Grenoble, pour les 132 ans de l'association Valentin VIII. Rubrique « Comprendre ». Zoom sur la culture accessible en France. Les mesures de restriction liées à la pandémie de la COVID-19 et imposées par le gouvernement ont remis à l'ordre du jour une question qui semblait pourtant réglée. L'art et la culture seraient-ils finalement non essentiels? L'accès à la culture est pourtant une liberté fondamentale, un droit pour tous ardemment défendu dans notre pays. D'abord parce qu'il s'agit d'un espace infini de découverte et de partage, propice à l'épanouissement personnel, mais aussi et surtout parce que l'art, sous toutes ses formes comme dans toutes les expériences qu'il propose, est un formidable levier d'inclusion sociale. La fermeture des salles de spectacle et de cinéma, des théâtres et des opéras, des musées, a mis la culture en pause, laissant tous les publics dans un immense désarroi. Pour les personnes aveugles ou malvoyantes, plus sensibles à l'isolement du fait de leur handicap, le vide a été d'autant plus flagrant qu'il n'existe pour elles pas ou peu d'alternatives à même de compenser cette privation. L'occasion de nous interroger aujourd'hui sur la place de la culture accessible en France et de dresser un état des lieux de l'existant. Intertitre « Rendre la culture accessible ». Priscilla Desbar, responsable de la communication de l'association Accès Culture et observatrice au réseau des écoles françaises de cinéma d'animation, RECA, souligne d'emblée le défi auquel sont confrontés, en France, les établissements culturels. Depuis plusieurs années, beaucoup d'initiatives ont été menées en faveur des personnes aveugles ou malvoyantes, notamment dans les musées, mais aussi dans de nombreuses autres structures culturelles. Mais je dois reconnaître que l'accessibilité n'est jamais gagnée. Et le plus souvent, c'est par méconnaissance, plutôt que par manque de volonté, que l'on ne s'y met pas. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Comment accueillir le public en situation de handicap visuel? Rendre la culture accessible aux personnes en situation de handicap visuel implique en effet de prendre en considération divers champs d'action, comme la mise en conformité des établissements avec la loi de 2005, ce qui n'est déjà pas rien, ou encore la capacité à assurer la promotion de l'offre culturelle adaptée auprès du public concerné. Mais le cœur du sujet qui nous intéresse principalement aujourd'hui, c'est bien sûr l'adaptation des œuvres artistiques via diverses stratégies de compensation du déficit visuel. Une façon de plaider en faveur d'une culture réellement multisensorielle et donc accessible à tous. C'est sans aucun doute l'invention de l'écriture braille en 1829 qui marque le tout premier pas vers l'accessibilité à la culture et à l'éducation des personnes aveugles ou malvoyantes. Une véritable révolution qui a bouleversé et simplifié le quotidien de millions de personnes. Pourtant, près de 200 ans plus tard, moins de 8% des ouvrages sont disponibles en braille. Source, Fédération des aveugles de France 2020. Un chiffre qui s'explique par le coût élevé de fabrication, l'encombrement de l'objet en lui-même, et certainement par le fait que seulement 10% des personnes handicapées visuelles lisent couramment le braille aujourd'hui. Les livres audio et numériques ont permis de contourner ces difficultés grâce aux enregistrements en voix humaine, à la synthèse vocale, au braille numérique et à l'utilisation de gros caractères. Les médiathèques spécialisées, à l'image de celle de la Bibliothèque numérique francophone accessible, BNFA, offrent aujourd'hui un large choix de livres et d'œuvres littéraires disponibles en ligne, accessibles à tous et adaptés à toutes les formes de handicap visuel. Mais si l'offre est en constante augmentation, elle demeure encore faible en regard du nombre de documents publiés chaque année. Le procédé de l'audiodescription, imaginé par Grégory T. Frazier, professeur à l'Université de San Francisco en 1975, ouvre la possibilité aux non-voyants de profiter des joies du 7e art et des productions télévisuelles. Source, Il était une fois l'audiodescription, Sabine Faro, 2016. Le principe repose sur l'aptitude du cerveau humain à fabriquer des images mentales. En insérant entre les dialogues et les bruits signifiants du film des métaphores et des mots précieusement choisis, l'audiodescription stimule l'imagination du spectateur afin qu'il puisse se représenter le film. L'audiovision est un travail de création à part entière puisqu'il s'agit d'écrire un texte inédit en vue de transmettre un message et de provoquer une émotion. En 1989, l'association Valentin Huy fut la première à l'importer en France en l'appliquant au film Indiana Jones et la dernière croisade. Malheureusement, si la technique de l'audiovision a atteint aujourd'hui un haut niveau de qualité, la diffusion du procédé reste encore limitée, alors que les nouvelles technologies ont pourtant largement simplifié sa mise en œuvre. Il faut dire qu'une minute de film représente pour un audiodescripteur près d'une heure de travail. Source, gi2a/apidv.org. Un coût significatif est peut-être prohibitif pour les productions. Ainsi, selon les chiffres rapportés en 2020 par la Fédération des aveugles de France, seuls 4% des programmes de télévision sont audiodécrits et 20% seulement des films projetés au cinéma sont disponibles en audiodescription. Pour autant, cette technique a largement favorisé depuis les années 1990 l'accès des personnes aveugles et malvoyantes à d'autres secteurs culturels et notamment les spectacles vivants. Qu'il s'agisse d'effets sonores préenregistrés et activés en temps réel par un régisseur présent sur place ou d'un souffleur d'images, le spectateur aveugle ou malvoyant peut ainsi suivre tous les changements de décor, de costume, les entrées et les sorties de scène, mais aussi tous les imprévus pouvant survenir durant la représentation. Chaque année, sous l'impulsion d'Accès Culture, l'offre de spectacles adaptés augmente de façon constante. Forte d'une expertise unique et d'une présence nationale, Accès Culture collabore désormais avec plus de 120 théâtres et opéras partout en France pour les accompagner dans toutes leurs démarches d'accessibilité et dans la création de spectacles vivants audio-décrits. Les offres de médiation, elles aussi, se développent significativement, comme les visites tactiles de plateau, par exemple. Une heure avant la représentation, les spectateurs déficients visuels sont invités à monter sur scène pour découvrir du bout des doigts les décors et les costumes et mieux appréhender l'espace scénique. C'est l'occasion pour eux de rencontrer des acteurs ou le metteur en scène et de bénéficier d'explications précieuses qui leur permettra de profiter pleinement du spectacle. sans que plus rien ne leur échappe. Il peut aussi s'agir d'ateliers pratiques, comme dans le cas des ballets, dirigés par le chorégraphe, afin d'expérimenter à travers son propre corps les figures que les danseurs réaliseront. Les actions de médiation sont aussi le moyen d'attirer au théâtre ou à l'opéra des spectateurs qui n'y sont jamais venus. L'enjeu est alors de leur en ouvrir plus largement les portes, de leur faire découvrir le théâtre et ses coulisses autrement, à travers son architecture et ses évolutions, son histoire et les différents métiers qui s'y exercent, par son emplacement dans l'espace urbain. Les maquettes tactiles montrent ici tout leur intérêt en favorisant l'exploration du lieu dans toutes ses dimensions et spécificités. À l'instar des théâtres, de plus en plus de sites et d'édifices touristiques en sont pourvus, même si cela est loin d'être systématique, contrairement à certains de nos voisins européens, comme la Belgique et la Pologne. Mais c'est sans doute dans les musées que leur utilisation ouvre les perspectives les plus enthousiasmantes, avec les reproductions ou les interprétations en relief d'œuvres d'art aujourd'hui grandement facilitées par le développement de l'impression 3D. Dans de nombreux musées, libérés de l'interdiction de toucher, les personnes en situation de handicap visuel peuvent désormais accéder à un certain nombre d'œuvres d'art, sculptures, peintures, objets et même tapisseries, en découvrir la beauté et, in fine, partager leur expérience et leurs émotions avec les autres. Notons tout de même qu'en Italie, les musées autorisent l'exploration tactile des œuvres originales, notamment les sculptures, et que les gardiens de salle sont formés à l'accompagnement des personnes aveugles dans cette démarche. Un exemple à suivre. Intertitre. Au temps de la Covid-19, quel accès à la culture pour les personnes aveugles ou malvoyantes? Le premier confinement, puis le deuxième, le couvre-feu, la réouverture indéterminée des lieux accueillant du public, ont largement favorisé la mise en œuvre de solutions alternatives d'accès à l'art et à la culture. La privation, ressentie par tout un chacun, a incité nombre d'acteurs à miser sur les nouvelles technologies pour continuer de répondre à la demande de leur public habituel. Mais quand 10% des sites internet seulement sont adaptés aux personnes aveugles ou malvoyantes, la dématérialisation de la culture pose surtout la question de l'accessibilité. Pour y remédier et garder un lien nécessaire et salvateur avec le public en situation de handicap visuel, certains acteurs ont mis en place des ponts téléphoniques. Comme Accès Culture, qui propose une présentation en audiodescription des spectacles programmés la saison prochaine. Tout comme le Centre Recherche Théâtre Handicap, CRTH, qui a, quant à lui, transformé son service de souffleur d'images en soufflage à distance, sur la base de contenus mis en ligne par des institutions comme la Réunion des musées nationaux Grand Palais, le Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes ou le Metropolitan Museum of Art de New York. Une façon de pallier la privation, de rompre l'isolement et de patienter jusqu'à la réouverture tant attendue par tous des salles de spectacle, des cinémas et des musées. En encadré, un souffleur d'image, c'est quoi? Le service souffleur d'image propose aux personnes aveugles ou malvoyantes d'accéder, quand elles le souhaitent, à l'événement culturel de leur choix. Un souffleur bénévole, lui-même étudiant en art ou artiste, décrit et souffle à l'oreille du spectateur aveugle ou malvoyant les éléments qui lui sont invisibles le temps d'un spectacle ou d'une exposition. Pour plus d'informations, www.souffleur.org. En encadré, témoignage de Priscilla Desbarres, responsable de la communication de l'association Accès Culture. Quand on pense à l'accessibilité, il ne faut pas la penser en termes de contraintes, mais comme une possibilité d'inclure tout le monde. L'audiodescription représente une autre façon d'appréhender et d'approfondir une œuvre, même pour une personne voyante. Les maquettes tactiles sont pensées au départ pour un public aveugle et malvoyant, mais finalement, elles servent à tous les publics et cela intéresse tout le monde. En encadré, témoignage. La médiation, une expérience multisensorielle enrichissante. Le monde de Jaleya, cirque de Paname, Paris, janvier 2020. Je n'aurais jamais pu imaginer possible de profiter à ce point d'un spectacle complet et totalement novateur mêlant art du cirque, théâtre, musique, chant et danse, avec des artistes surprenants de virtuosité. Ludovic, le réalisateur et créateur de ce spectacle incroyable, a mené lui-même la visite tactile et a réussi à nous faire entrer dans son univers onirique et fantastique. Les principaux éléments et objets du décor nous ont été présentés, ainsi que quelques-uns des costumes, tous faits de matière originale et différente. Enfin, les effets spéciaux nous ont été expliqués, comme le feu ou les rideaux de pluie. Chacun de ces effets visuels est accompagné de sensations tactiles comme le vent ou la chaleur, ou au contraire le froid polaire, et de sensations olfactives comme l'odeur de la terre humide ou du feu de cheminée. Le tout est complété par un son à 360 degrés, Une musique envoûtante jouée par l'orchestre en live et des effets sonores surprenants. L'histoire est poétique et fantastique et l'audiodescription complète parfaitement l'ensemble. Ainsi, je me suis senti en immersion totale pendant toute la durée de cette représentation exceptionnelle et innovante. Elisabeth Girard, spectatrice. Source, accesculture.org. En encadré, regard tactile. Sous l'impulsion et l'implication de Rémi Closset, administrateur, l'association Valentin à Huy a développé depuis des années des supports et des outils de médiation pour permettre aux personnes aveugles ou malvoyantes d'accéder aux œuvres d'art dans les musées. En décembre 2019, l'association Valentin à Huy et Paris Musée ont permis d'enrichir les rendez-vous culturels proposés aux personnes déficientes visuelles grâce à Regard Tactile, une découverte originale des collections des musées de la ville de Paris, mise en scène au musée de la vie romantique. 23 dispositifs tactiles audio décrits, interprétations en trois dimensions de peinture et de sculpture, représentant des œuvres choisies avec les services des publics des musées, ont été ainsi mises à la disposition du public. En 2021, l'association Valentin Huy espère pouvoir organiser un tactile tour dans toute la France en coopération avec certains de ses comités. Rubrique « Découvrir ». Allier sport et études de kinésithérapie au centre de formation et de rééducation professionnelle. Ils mènent conjointement un projet sportif et leurs études à l'Institut de formation de masso-kinésithérapie, IFMK, du Centre de formation et de rééducation professionnelle, CFRP. Découvrez les parcours de Mélissa, Stéphanie et Maxime, trois étudiants déficients visuels au mental d'acier. Intertitre « Kiné, un métier et une voie d'avenir ». Mélissa, Stéphanie et Maxime ont choisi de devenir masseurs kinésithérapeutes, une voie privilégiée d'insertion professionnelle pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Mélissa, 18 ans et malvoyante, est en première année du cursus spécialisé dite « année spécifique ». En parallèle, elle pratique l'escalade. Intéressée par le secteur médical, elle a choisi très tôt le métier de kiné. « J'ai compris que c'était possible avec ma vision ». Mélissa, qui a toujours voulu faire comme les autres, avait imaginé suivre le parcours classique en intégrant une première année de médecine. Pour elle, la formation spécialisée est un compromis. Et la jeune femme le reconnaît. On a la chance d'avoir des supports adaptés, des profs qui nous expliquent. En faculté de médecine, je n'aurais pas eu tous les documents en agrandi, et j'aurais certainement dû abandonner l'escalade. L'escalade est aussi la discipline et passion de Stéphanie, 40 ans, en quatrième et dernière année de formation. Devenue quasiment aveugle, cette ancienne éducatrice spécialisée a opté pour une reconversion dans un secteur où cela serait plus simple du fait de sa déficience visuelle. Maxime, 19 ans, malvoyant, pratique l'athlétisme et a intégré lui aussi la première année du cursus. Il veut devenir kiné et s'occuper de sportifs de haut niveau. Pour y parvenir, il suivra une année de spécialisation supplémentaire après l'obtention du diplôme d'État. Intertitre « Sport et kiné, la combinaison gagnante ». La pratique sportive représente un atout pour ces futurs praticiens spécialistes de la rééducation motrice et fonctionnelle du corps. Simplement, les kinés ont souvent besoin d'être sportifs, constate Mélissa. Pour Cécile Fumeron, directrice de l'IFMK, les étudiants sportifs ont souvent déjà une bonne connaissance du fonctionnement du corps, une très bonne proprioception, note de la rédaction, sensibilité profonde, consciente ou non, de la position des différentes parties du corps. Ils ont aussi un super mental, sont extrêmement motivés et globalement travailleurs. Intertitre. Une bonne dose de volonté et d'organisation. Pour réussir à concilier les études et les entraînements, Mélissa a son petit secret. « J'apprends mes cours au fur et à mesure. Je ne laisse rien traîner pour ne pas avoir de surcharge. » Avec la crise sanitaire, elle s'entraîne le soir à distance avec son coach. « En général, je grimpe 3 fois par semaine, mais depuis la crise sanitaire, c'est plutôt 2 fois par semaine. » Faute de compétition pour le moment, son objectif est de se maintenir au maximum pour repartir au niveau intensité et puissance. Pour tenir le cap, Maxime s'impose lui aussi d'être très concentré pendant les cours. Il s'entraîne 6 jours sur 7, 9 heures par semaine en alternant préparation physique et préparation spécifique de sprint. Son objectif, participer aux Jeux paralympiques de Paris en 2024. Déterminé, le jeune athlète affiche ses ambitions. Les JO de Paris, ce n'est que le début. Avec son entraîneur, Stéphanie a cherché dès sa deuxième année une organisation et des stratégies pour concilier les cours avec 8 heures d'entraînement hebdomadaire et les compétitions d'handi-escalade. Elle précise « Par exemple, j'ai investi les temps de transport en écoutant mes cours en audio. Ce qui m'a aidé aussi, c'est de pouvoir travailler en groupe et d'avoir des amis pour relâcher la pression. » Si aucun aménagement d'emploi du temps n'est prévu par le centre de formation, hormis pour les évaluations, l'équipe pédagogique reste à l'écoute des besoins de ses étudiants. Cécile Fumeron, la directrice de l'IFMK, le souligne. Lorsque des adaptations sont envisagées, nous sommes attentifs à rester dans le cadre réglementaire. Mais généralement, les étudiants sont peu demandeurs. Ils avancent, ne se posent pas de questions. Intertitre : Le sport, un élément essentiel dans leur vie. Le sport permet à Maxime de se sentir bien et de s'évader. Ça défoule, ça fait un bien fou. Le sport lui permet aussi de se dépasser, de faire de nouvelles rencontres, de vivre et de partager des émotions fortes. Mélissa s'en est rendue compte avec le confinement. « Quand je ne peux pas grimper, je ne me sens pas vraiment bien. L'escalade fait vraiment partie de mon équilibre. » Même constat pour Stéphanie. Jongler entre les cours, les entraînements et les compétitions requiert beaucoup d'organisation, de travail, de discipline, des sacrifices aussi. Mais en même temps, l'escalade me permettait de bien m'organiser dans mes études et d'être bien tant physiquement que mentalement. Le sport a aussi eu des vertus thérapeutiques pour Stéphanie. Elle a commencé l'escalade à 36 ans pour travailler sa peur de tomber. « J'ai une maladie qui touche la vue, l'audition et l'équilibre. L'escalade m'a permis de travailler ma proprioception, de m'aider dans ma vie quotidienne pour marcher dans la rue, en étant droite par exemple. » Enfin, l'escalade représente pour elle un véritable espace de liberté où elle peut laisser la maladie au pied du mur. « C'est le seul endroit où ma canne reste au vestiaire et où je n'ai pas peur de tomber. Grâce à l'escalade, j'ai aussi découvert que j'étais capable de plus de choses que je ne m'imaginais. » Son mantra « Je suis invalide, pas incapable. » Trois photos en illustration, Stéphanie et Mélissa en compétition d'handi-escalade et Maxime sur une piste d'athlétisme. Rubrique « Agir ensemble ». Formation et emploi des déficients visuels. Le coup de pouce des dons IFI. En France, un travailleur handicapé sur trois dispose d'un emploi contre 2 personnes sur 3 pour la population dans son ensemble. Source IGAS, Handicap et Emploi, 2020. Comment faire face aux défis de l'emploi, mais aussi à celui de la formation professionnelle, lorsque l'on souffre d'un handicap visuel ? Avec plus de 130 ans d'action pour l'insertion professionnelle et sociale des personnes aveugles ou malvoyantes, l'association Valentin 8 propose des solutions concrètes aux personnes déficientes visuelles pour favoriser l'autonomie et l'emploi. Pour les personnes confrontées au handicap visuel, il n'y a pas d'autonomie et d'avenir sans qualification professionnelle et emploi. Pour les aider face à ces défis, l'association a créé et gère 3 structures spécialisées qui ont pour mission la formation et l'insertion professionnelle. Le Centre de formation et de rééducation professionnelle, CFRP, situé à Paris dans le 7e arrondissement, l'entreprise adaptée L'Atelier de la Villette, dans le 19e arrondissement de Paris, et l'entreprise adaptée Frères Françaises, située à Nantes. Ces 2 entreprises emploient aujourd'hui 64 personnes handicapées. Le Centre de formation et de rééducation professionnelle, CFRP, quant à lui, accueille chaque année jusqu'à 170 étudiants. Il propose des formations qualifiantes variées telles qu'employés administratifs et d'accueil, masseurs bien-être, mécaniciens cycle ou kinésithérapeutes. L'offre de formation s'est même étoffée en 2018 en créant un BTS informatique, brevet technicien supérieur. En choisissant de soutenir spécifiquement ces 3 établissements de l'association, vous pouvez aujourd'hui mettre votre impôt au service de l'emploi des personnes déficientes visuelles. En effet, reconnue d'utilité publique depuis 1891, l'association Valentin 8 est habilitée dans ce cas à recevoir des dons ouvrant droit à une réduction de l'impôt sur la fortune immobilière, IFI, soit 75% du montant de ce don dans la limite de 50 000 euros. Aujourd'hui, par ce don aux 3 établissements, vous aidez l'association à maintenir et développer ses capacités d'accueil et leurs offres pour les personnes aveugles ou malvoyantes qui ne souhaitent qu'une chose, être intégrées à part entière dans notre société et accéder à une formation professionnelle ou à un emploi. Vous pouvez avoir la garantie que chacun de vos dons est bien utilisé. L'association Valentin 8 est membre du comité de la charte du don en confiance qui contrôle régulièrement la bonne utilisation des dons reçus. Ces comptes sont en outre certifiés par des commissaires aux comptes indépendants et sont publiés chaque année. Pour faire un don en ligne, rendez-vous vite sur www.avh.asso.fr, rubrique je fais un don. Question-réponse. Comment recevoir la newsletter de l'association? La newsletter vous informe des actions menées par notre association et vous renseigne précisément sur tout ce que nous pouvons mettre en œuvre grâce à la générosité de nos donateurs. Si vous souhaitez la recevoir, vous pouvez nous transmettre votre adresse e-mail sur un bulletin de dons ou directement auprès du service Relations Donateurs, mais aussi en vous inscrivant directement sur notre site www.avh.asso.fr. J'ai effectué un don à votre association, mais mon reçu fiscal ne m'est jamais parvenu. Si vous n'avez pas reçu votre reçu fiscal, il se peut que nous n'ayons pas la bonne adresse postale ou qu'il y ait eu une perte de courrier. N'hésitez pas à contacter notre service Relations Donateurs qui vérifiera votre adresse et vous fera parvenir un duplicata. Comment fonctionne le don en ligne? Sur notre site www.avh.asso.fr, vous avez le choix du type de soutien que vous souhaitez apporter afin d'agir pour l'autonomie des aveugles ou des malvoyants. Un don ponctuel hors cadre IFI, un don ponctuel IFI ou un don régulier par prélèvement automatique. Est-il possible de désigner l'association Valentin VIII comme bénéficiaire d'une assurance vie? Oui, l'association Valentin VIII peut être désignée dans la clause bénéficiaire du contrat, soit lors de la souscription d'une assurance vie, soit par la suite en modifiant la clause bénéficiaire. Vous pouvez aussi fixer une priorité dans vos bénéficiaires, par exemple, nommer votre conjoint et décider que si ce dernier décède avant vous, vous désignez l'association Valentin VIII comme bénéficiaire de second rang. Votre interlocutrice pour l'assurance vie, Dorothée Gravereau, 01 44 49 29 60. D.Gravereau, Gravereaux, @avh.asso.fr. Où puis-je trouver un comité Valentin VIII près de chez moi? Vous pouvez trouver toutes les coordonnées de nos comités départementaux et correspondances locales sur www.avh.asso.fr, rubrique l'association / nos comités. Contact, relations donateurs, Marie ou Sandra, 01 44 49 27 05. Adresse mail, relationsdonateurs@avh.asso.fr, relations au singulier, donateurs au pluriel. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.avh.asso.fr. Legs, donations, assurance vie. Offrez en héritage aux personnes aveugles ou malvoyantes un nouveau regard sur la vie. En transmettant votre patrimoine à l'association Valentin VIII, qui agit depuis plus de 130 ans avec les personnes aveugles ou malvoyantes, vous leur permettez d'avoir un nouveau regard sur la vie. Grâce à vous, elles disposeront demain des outils et services nécessaires pour vivre de façon plus autonome au quotidien. L'association Valentin VIII est reconnue d'utilité publique depuis 1891. Vos legs en notre faveur sont totalement exonérés de droits de succession. Vous pouvez contacter notre responsable des legs et de l'assurance vie, Dorothée Gravereau, par téléphone au 01 44 49 29 60 ou par mail d.gravereau@avh.asso.fr.